Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, 19h30 ici à Paris.
Afrique Soir.
Bonsoir Séphirin Quadio.
Bonsoir Philippe Le Caplin, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité africaine de ce dimanche, retour sur l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Une trêve accueillie avec un enthousiasme mesuré au Maroc où depuis le début de la guerre, des manifestations de soutien aux Palestiniens sont régulièrement organisées. Nous parlerons également du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain élu en novembre dernier sera officiellement investi ce lundi. En Afrique, les attentes oscillent entre espoir et scepticisme. Et puis l'armée nigériane, encore une fois, sous le feu des critiques après une nouvelle frappe aérienne contre des civils dans le nord-ouest du pays, région où les groupes criminels sèment la terreur. Le patron de l'armée de l'air a dépêché une équipe d'enquêteurs sur place. L'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est donc entré en vigueur ce dimanche après un peu plus de 15 mois de guerre. En tout cas, depuis le début de la guerre à Gaza, des manifestations de soutien aux Palestiniens sont régulièrement organisées au Maroc, je vous le disais en titre. Manifestations réunissant parfois des milliers de personnes. Le groupement d'action nationale pour la Palestine, qui rassemble des formations de gauche et le parti de la justice et du développement, parti d'obédience islamiste, a été à l'origine de plusieurs manifestations. Mais certaines sont aussi totalement spontanées dans le royaume chérifien. Mathias Reynal, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza ce dimanche est accueillie avec un enthousiasme plutôt mesuré chez les partisans de la cause palestinienne.
Fer de lance du mouvement pro-palestinien au Maroc, le groupement d'action nationale pour la Palestine, Ahmed Wehman, fait partie de son secrétariat. Pour ce responsable, l'annonce du cessez-le-feu a été un soulagement.
On l'a accueilli avec joie parce qu'il doit mettre fin aux souffrances des Palestiniens, au génocide et à l'épuration ethnique.
C'est l'aboutissement de plusieurs mois de mobilisation. Au Maroc, le mouvement pro-palestinien a organisé des manifestations d'ampleur, notamment à Rabat en octobre dernier. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont alors afflué pour commémorer le début de la guerre à Gaza. Mais Ahmed Wehman préfère rester prudent.
On n'est pas rassuré vu la nature et l'histoire des crimes sionistes de l'entité d'occupation. Pour les Marocains, la Palestine est une cause nationale. On prépare des activités parmi lesquelles des sit-ins et une marche nationale.
La date de cette marche nationale n'est pas encore fixée, mais elle devrait être organisée dans les prochains jours. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
À la veille de l'investiture de Donald Trump pour son second mandat, les attentes des Africains oscillent entre espoir et scepticisme. Si certains réclament davantage de respect de la part d'un président qui, lors de son premier mandat, avait qualifié les pays africains, je cite, de pays de merde, d'autres estiment, en revanche, que le continent ne peut pas se contenter d'attendre. Ainsi, pour juste Kodjo, professeur de sécurité internationale à la New Jersey City University, l'Afrique doit abandonner une posture attentiste pour adopter une approche proactive.
Je crois que les Africains n'ont pas besoin d'attendre nécessairement. Ils doivent d'ailleurs, moi je dirais même d'ailleurs, ils doivent passer d'une posture attentiste à une posture proactive. C'est à eux vraiment de prendre le bâton et de faire bouger les lignes. Au plan politique, il y a certainement des leviers. Au sein des investisseurs, il y a certainement des leviers. Elon Musk est un acteur assez important, d'origine sud-africaine, même s'il est de race blanche, mais qui pourrait être intéressé, par exemple, par certains minerais rares en Afrique, en raison du type de business qu'ils mènent dans l'espace et les véhicules publics. Ce sont des secteurs où il y aura un grand besoin de certains minerais très rares qu'on ne trouve peut-être qu'en Afrique. Et donc, il appartient aux Africains de jouer sur des leviers de ce type-là pour se positionner un peu sur l'agenda de Trump en termes de priorité.
Un propos recueilli par Christina Okello. L'Est de la République démocratique du Congo, toujours en proie aux violences d'intenses combats observés ce week-end dans plusieurs villages du territoire de Calais, dans le sud Kivu. Affrontement entre le M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo. Le sous-lieutenant Meya Jérémy, porte-parole de la région nord du sud Kivu, confirme les attaques du M23. La société civile indique que ces combats ont provoqué un afflux déplacé vers les agglomérations de Minova, Kalungu et Niabibouye. La présidente tanzanienne sera-elle la candidate de son parti aux élections générales prévues en octobre prochain. Samia Suluhu Hassan a été désignée ce dimanche à l'unanimité par les membres du Chamacha Mapinduzi, sa formation politique pour ces élections. L'armée nigérienne est très critiquée après une nouvelle frappe contre des civils dans le nord-ouest du pays, région où des groupes armés sèment la terreur. Le patron de l'armée de l'air a envoyé une équipe d'enquêteurs dans la région de Zamfara, où au moins 16 membres d'un groupe d'autodéfense locale ont été tués dans un bombardement aérien samedi 11 janvier. Cette bavure n'est que la dernière en date d'une longue série. Le jour de Noël, 10 civils avait déjà été tué par l'aviation nigériane dans un village de l'état de Sokoto. En 2023, une erreur de frappe avait fait au moins 85 victimes, dont une majorité de femmes et d'enfants, lors d'un rassemblement religieux dans la région de Kaduna. Des erreurs de l'armée aux origines multiples, selon Oluwole Ojewale, chercheur à l'Institut des études de sécurité.
Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces erreurs de frappe. D'abord, il faudrait voir quel type de matériel est utilisé par l'armée de l'air et si cette technologie n'est pas trop datée. Il y a aussi la question de la formation et de l'entraînement des soldats eux-mêmes. S'ils repèrent des mouvements récurrents de population, des rassemblements suspects, cela peut éveiller la suspicion des militaires. Et peut-être que la coordination avec les groupes d'autodéfense locaux est mauvaise. Or, ce sont eux qui sont censés réunir les informations sur le terrain en premier lieu. Comment, dès lors, est-il possible qu'ils soient eux-mêmes des victimes collatérales de ces frappes aériennes ? Enfin, il ne s'agit pas d'un conflit conventionnel. Les groupes terroristes utilisent des tactiques de guérilla. Ils traversent facilement les frontières, qui sont poreuses dans la région, ce qui complique beaucoup l'action des militaires nigérians dans la zone.
Un propos recueilli par Lisa Fabien. Au Sénégal, 600 personnes vivent de la pêche artisanale et le secteur est en tension. Tension depuis des années à cause de la raréfaction des ressources. En janvier dernier, la Coalition nationale pour une pêche durable avait fait signer une charte à 13 candidats à la présidentielle. Près d'un an après l'élection, ses membres organisent en ce moment une caravane pour récolter les doléances des acteurs de la pêche et rencontrer les autorités pour porter leur message. Reportage Juliette Dubois.
Sur le quai de pêche de Wakam, des pêcheurs rafistolent leur filet au soleil et les membres de la Coalition nationale pour une pêche durable, CONAPED, scandent leur message de sensibilisation. Objectif, faire connaître leur charte, mais aussi récolter les témoignages des pêcheurs et transformatrices dans les régions du pays.
La première des choses, c'est avant tout la rareté des ressources qui est là.
Abdoulaye Ndiaye est secrétaire général de la CONAPED.
Dans la zone nord, on nous a beaucoup parlé de l'impact pétrole-gaz dans leur zone de pêche, parce que déjà c'est quelque chose qui est réel. Au niveau de l'Ompoule Fassboy, on nous a parlé de la descente des navires de pêche industrielle dans la zone de pêche qui est réservée à la pêche artisanale.
Parmi les 13 recommandations de la charte, on trouve la réduction de la pollution marine, l'audit de la flotte industrielle et plus de transparence. Le président Bassirou Diomaye Faye l'avait ratifié lorsqu'il était candidat. La CONAPED reconnaît qu'il y a déjà eu des améliorations. Alassane Dieng est le secrétaire général du groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal.
On avait demandé au niveau de la charte qu'il y ait une évaluation avant toute signature du nouvel accord. Cette évaluation, effectivement, est en cours. On n'a pas encore reçu les conclusions donc, du département, même si déjà il y a, disons, une pause par rapport aux accords de pêche.
Mais certains points doivent encore être améliorés.
Il y a les questions de transparence et de surveillance et de recherche, parce que c'est à la base des résultats de la recherche qu'on peut véritablement prendre des décisions.
La caravane prendra fin le 23 janvier à Mbour et la coalition prévoit d'apporter un nouveau rapport au ministère de la Pêche. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et puis en football, dernière journée de la Coupe de la CAF. La SEC, 3e avec 5 points, accueille les Botswanais d'Orapa United FC ce soir au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Victoire impérative pour les jaunes et noirs qui doivent aussi compter sur une défaite des 2e, les Sénégalais de Jaraf contre l'USM Alger pour se qualifier. Mais Julien Chevalier, l'entraîneur des Mimos, ne sous-estime pas l'adversaire du jour, bien que dernier du groupe est déjà éliminé.
On a vu que c'était un adversaire qui est devenu très solide. Ils ont encaissé 6 buts lors de la première rencontre, puis après, ils se sont resitués, on l'a vu au match aller, très défensif, un bloc déterminé à pas perdre. Enfin, on doit être capable de les battre, mais maintenant, on sait aussi que c'est le genre de profil d'équipe qui nous convient pas beaucoup, qui défend très très fort, qui laisse peu d'espace, et il faudra trouver les ressources et la capacité technique, mentale, de faire la différence, de marquer déjà. C'est le premier point à faire contre cette équipe qu'on a aperçu tout au long de la compétition, très solide.
Voilà, Julien Chevalier au micro de Youen Gourlet à Abidjan, où il est actuellement 18h40.